cours de critique par le Père Marie-Dominique Philippe, le 6 avril 2001 à Saint-Jeudard.
La dernière fois, nous avons regardé les deux abstractions universelles et formelles. Alors, il y aurait l'abstraction mathématique, qui est une abstraction formelle, à bien voir. Et c'est très important, puisque l'abstraction mathématique va se retrouver dans toutes les sciences modernes. Parce que c'est par les mathématiques que ces sciences modernes se formalisent comme science. Les mathématiques jouent dans les sciences modernes le rôle de la métaphysique avant. Oui. Et c'est très curieux, cette chose-là. Mais les mathématiques ont, j'allais dire, toujours un désir de domination. Aristote avait très bien saisi que les mathématiques, dans l'ordre de la certitude, ce sont les connaissances les plus certaines. Dans l'ordre de la certitude, pas dans l'ordre de l'évidence. Distinguer toujours bien évidence et certitude. L'évidence se tient du côté de l'objet, un objet dont l'intelligibilité est évidente, c'est-à-dire que on saisit directement l'évidence d'un principe, sans intermédiaire. L'évidence d'une conclusion se fait toujours par l'intermédiaire des principes. Donc il y a une évidence immédiate et une évidence médiate. L'évidence médiate, c'est celle de tous les raisonnements qui aboutissent à la conclusion. L'évidence immédiate est celle des principes et des lois aussi, des axiomes. Parce que la différence entre, vous voyez, il faut bien distinguer le principe, l'axiome et la loi. Le principe saisi dans la réalité quelque chose que seule l'intelligence peut saisir, qui est au cœur de l'être, de la vie, du devenir. On saisit ce qui va permettre de nous manifester ce qui est premier. Prenez, par exemple, en métaphysique, la saisie de la substance comme principe, ce qui est premier dans l'ordre de l'être, selon la recherche de la cause formelle. Et la recherche des causes, la recherche du premier. Le premier est toujours indivisible et il a une évidence première. Il se comprend par lui-même. Il est intelligible par lui-même. Le principe est toujours lié à ce qui est, à ce qui vit, à ce qui devient. Donc, il a toujours un contact avec ce qui existe, la réalité. L'axiome exprime une loi de l'intelligence, l'axiome de non-contradiction. On dit le principe de non-contradiction, mais il faudrait dire l'axiome. Aristote dit l'axiome. Parce que ça ne regarde pas directement la réalité. Ça regarde les propositions. On ne peut pas en même temps affirmer et nier la même chose sous le même rapport. Ça, c'est un axiome qui exprime la vie d'intelligence. On ne peut pas affirmer et nier la même chose sous le même rapport en même temps. Ceci est, ceci n'est pas. Alors voilà le fondement de cet axiome, qui est le premier axiome, qui, comme dit Aristote, si vous n'acceptez pas cet axiome, vous ne pouvez plus avoir de connaissances scientifiques. Pouvoir, celui qui prétend affirmer et nier la même chose sous le même rapport de la même réalité, sa parole n'a plus de sens. Mais ça touche la signification de notre langage, des propositions. Bon, l'axiome ne regarde qu'une harmonie, qu'un rapport évident dans l'ordre de l'intelligibilité, pas nécessairement dans la réalité. Dans la réalité, mais pas immédiatement. La loi, c'est une relation entre deux réalités, l'antécédent et le conséquent. Quand vous voulez montrer comment un conséquent, une réalité arrive, il faut nécessairement qu'elle dépende de quelque chose d'antérieur. La loi exprime une relation nécessaire. La science vous donne des relations nécessaires, ou des relations ut in pluribus. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Mais il peut y avoir des exceptions. Dès que vos principes touchent la matière ou impliquent la cause matérielle, il y aura toujours la possibilité du hasard. Que ça craque à la dernière minute. Vous dites par exemple, le train doit arriver à telle heure, parce qu'il est parti à telle heure d'une gare. Il doit arriver nécessairement à cet autre instant. Terminus ad quo. Mais comme la matière intervient, il peut y avoir un accroc. Nous n'épuisons pas toutes les possibilités de la matière. Nous n'arrivons jamais à les épuiser. Et un architecte qui doit faire un barrage, bon, il étudie la puissance de ce barrage devant la coulée de l'eau, devant la puissance de cette coulée de l'eau. Bon. La plupart du temps, ça tient comme ça. Mais il peut se faire qu'il y ait un accroc, quelque chose d'imprévisible qu'on n'a pas vu dans la matière qu'on a travaillée. Alors, il y a un procès qui se fait, c'est toujours très intéressant, un procès qui se fait. Il aurait dû prévoir dans quelle mesure on peut prévoir, puisque on ne peut jamais prévoir tous les possibles de la matière. C'est un architecte qui m'a raconté comment il avait bâti une maison sur un sol qui avait été, il y a très longtemps, le passage d'une rivière. Puis la rivière était détournée. Et il a bâti là-dessus. Bon, il avait fait, heureusement, l'expertise de la solidité de ce sol. Il fallait creuser combien de mètres pour atteindre quelque chose de solide. Et puis voilà, au bout de quelques années, le sol s'est mis à bouger et le bâtiment n'a plus eu la même solidité. Pouvait-on prévoir ça ? Il y avait l'expertise. S'il n'y avait pas eu l'expertise, il aurait sûrement été condamné. Mais l'expertise, faite par des savants compétents, montrait qu'ils pouvaient construire. Mais il peut y avoir un tremblement de terre. Alors, est-ce que ce tremblement de terre était prévisible comme un petit tremblement de terre qui était tout simplement le fait que le sol cédait à cause... Et comme on ne pouvait pas le prévoir, on ne l'a pas condamné. Vous voyez, c'est très curieux de voir que dès que la matière intervient, on est obligé de reconnaître qu'on ne peut pas épuiser toutes les possibilités. Il peut toujours y en avoir un crack. Alors, les lois physiques sont toujours, la plupart du temps, c'est comme ça. En morale, la plupart du temps, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en morale, intervient la passion. Et les passions, on ne peut jamais savoir jusqu'où ça va. Alors, on prend, la plupart du temps, c'est comme ça que ça arrive. C'est pour ça que les lois psychologiques ne sont pas infaillibles, la plupart du temps. Ut in pluribus, en latin. La plupart du temps, c'est comme ça. Il faut toujours bien distinguer la cause, le principe, la loi. Le principe, l'axiome, si vous voulez. La cause, l'axiome, la loi. Ça, c'est dans Aristote même. Et ça n'a pas voulu. Parce que les sciences modernes donnent des lois impliquant la matière, et donc ce sont des lois qui ne sont pas infaillibles. Ce sont des lois, la plupart du temps c'est comme ça. Pour les vitres, vous comprenez, la résistance de la vitre à l'égard de la chaleur. Quand la chaleur ou le froid est trop grand, ça saute. Ça a une résistance mesurée. Alors, ces deux abstractions nous font connaître le fruit de ces abstractions. Le fruit de ces abstractions, c'est le concept. Le concept est ce que mon intelligence, grâce à l'abstraction, arrive à concevoir. C'est le fruit d'une intelligence abstraite, le concept. Le concept où on dit le verbe en théologie, à cause du verbe de Dieu. Au fond, en philosophie, c'est beaucoup plus ce concept. À la suite de l'abstraction, on a un concept universel, et le concept universel univoque sont les cinq universaux qu'on doit connaître, le genre, différents spécifiques, l'espèce, le propre et l'accident. Ça, il faut le savoir. C'est élémentaire. Donc, on doit connaître qu'il y a, dans la connaissance univoque, qu'il y a cinq concepts univoques. Le concept générique, c'est le plus étendu. Le concept spécifique, qui vient préciser différents spécifiques. On a par exemple le concept animal. Nous faisons partie des animaux, hein, génériquement. Vous faites partie des animaux. Ce n'est pas étonnant que notre estomac soit quand même semblable à celui du porc. Parce que maintenant, on se demande dans quelle mesure on peut changer de cœur, mettre un cœur de porc. Dans quelle mesure le genre fait qu'il y a suffisamment de liens pour qu'on puisse passer au-delà des différences spécifiques. La différence spécifique du porc, la différence spécifique de l'homme. Cette différence spécifique de l'homme raisonnable, animal raisonnable. Vous voyez, la définition de l'homme animal raisonnable est logique. C'est le genre et la différence spécifique. Et la définition est logique. Donc celui qui veut des définitions reste dans la logique. Il ne faut pas l'oublier. C'est très bien, c'est univoque, raisonnable. Et puis, à côté de raisonnable, il y a l'irraisonnable, ce qui n'est pas raisonnable. C'est tous les autres animaux, en dehors de l'homme. Donc différence spécifique. Le genre et la différence spécifique donne l'espèce, la définition. On définit par genre et différence spécifique. C'est les deux qui permettent de donner la définition. Et la définition d'une réalité a des propriétés, c'est-à-dire des accidents qui reviennent toujours, qui sont nécessaires, et des accidents arrive par hasard, l'accident. Donc il faut connaître ces cinq universaux univoques. Vous voyez, puisqu'ils sont cinq, on voit donc que l'univocité pure n'existe jamais. Parce qu'il y a des différences spécifiques. L'animal raisonnable, dans quelle mesure est-il encore animal ? C'est vrai. Le genre animal a des caractères particuliers. C'est celui qui se meut lui-même. C'est celui qui sent. Il a la vue, il a les sens. L'animal a des sens, il a un goût. Mais la différence spécifique, intelligence, vient transformer profondément l'animal. Alors jusqu'où la différence spécifique transforme le genre, c'est toujours très délicat ça. Pour former l'espèce. L'abstraction formelle me permet d'avoir un concept analogique. Même en mathématiques, l'analogie joue. Du reste, le mot analogie provient des sciences mathématiques. Et quelle est la différence entre l'universel univoque et l'universel analogique? C'est que dans le concept universel analogique, la différence vient de la raison universelle analogique. Un universel analogique, c'est par exemple l'être. L'être se différencie par lui-même. Vous avez l'être sensible, l'être vital, l'être spirituel. Et c'est toujours l'être qui se différencie. Donc, l'être se différencie par lui-même, pas par quelque chose d'extérieur, alors que l'universel univoque se différencie par quelque chose d'extérieur, raisonnable et différent d'animal. Et raisonnable n'est pas contenu dans le concept univoque. Tandis que, quand il s'agit de l'analogie, la différence est contenue dans la raison analogique. Alors on dira ratio et modus. Vous voyez ? Il y a quelque chose d'analogue entre genre et différence spécifique, entre raison, la ratio, et le mot douce. Le mot douce joue par rapport à la ratio le rôle de la différence spécifique par rapport au genre. Mais la grosse différence, c'est que la différence, le mot douce, est contenu dans la ratio, tandis que la différence n'est pas contenue dans le genre. Et ça, c'est capital de comprendre ça. C'est le propre de la connaissance analogique. Vous voyez, quand vous saisissez la raison d'être, tous les modes particuliers de l'être restent de l'être. L'être sensible, l'être vital, l'être spirituel, c'est encore de l'être. Et la différence spécifique provient de cette raison analogique que j'ai saisie. Donc ça, c'est très très important de comprendre ça. Et Saint Thomas, on ne peut lire Saint Thomas que si on comprend ça. Saint Thomas ne dit pas « gare », attention, non. Saint Thomas présuppose que tout ça est connu. C'est la critique, ça. La logique, au contraire, s'occupe de l'universel, univoque. L'universel analogique est au-delà de la logique. Il n'y a plus que la critique qui le regarde. Avançons. Le concept qui domine tous les concepts, c'est le concept d'être. Et Aristote ne cesse de répéter, le concept d'être n'est pas dans un genre. L'être n'est pas dans un genre. L'erreur courante que l'humanité fait, c'est de considérer que l'être est un genre. Alors, la différence spécifique, qu'est-ce qu'elle est? Elle est du non-être. Puisque si la différence spécifique est de l'être, elle est incluse dans l'être, dans la raison d'être. le concept le plus radical en nous, c'est le concept d'être, qu'on acquiert progressivement par la métaphysique. La métaphysique doit engendrer en nous ce concept d'être, ratio entis. Vous voyez, quand saint Thomas parle de ratio entis, c'est le concept d'être. Il ne dit pas genre d'être, il dit ratio entis, et non pas genus animalis. Alors ça, il faut aussi le savoir. Il y a quelques concepts qu'on appelle transcendentaux. Ces concepts transcendentaux sont donnés dans saint Thomas dans le De Veritate, question 1, article 1. Ça, il faut tous avoir lu ça dans sa philosophie. Les transcendentaux, vous voyez, c'est les transcendentaux, c'est le fruit d'une critique. Alors, les transcendentaux sont ce qui est convertible avec l'être, c'est-à-dire ont la même extension et la même compréhension. Ce concept. Alors, quels sont ces transcendentaux? Question De Veritate, question 1, article 1. C'est res. Unum. Aliquid. Vrai. Verum. Bonum. Alors, Albert le Grand, historiquement, Albert le Grand, le maître de Thomas d'Aquin, avait donné quatre transcendentaux. Saint Thomas a ajouté aliquid. Donc, aliquid vient d'Aristote. Res et unum. Albert Legrand déclarait que c'était les transcendentaux philosophiques. Verum et bonum étaient les transcendentaux théologiques. C'est Albert Legrand qui dit ça. Pour saint Thomas, les transcendentaux théologiques sont philosophiques. Et il ajoute à l'écuit. Alors, le concept de res, d'unum, aliquid, verum, bonum, sont, au dire de saint Thomas, transcendentaux. C'est-à-dire, ils transcendent tout genre. Transcendantal se prend par rapport au genre. Transcende tout genre, c'est-à-dire toute réalité existante est une, res, aliquid, bodum, verum. Donc c'est convertible avec la ratio entis. Ratio entis, c'est ce qui est signifié par le concept d'être en nous. Et le concept de res, unum, aliquid, verum, bonum, ont la même extension que l'être, la même compréhension. Mais cependant, s'ajoute une certaine compréhension à chacun des transcendentaux. Mais ils sont convertibles avec l'être. Alors, res, c'est la détermination. C'est pour ça qu'on dira très souvent que res, c'est l'essence. Unum, c'est la propriété de l'être. Ça, nous le reverrons. Aliquid, c'est ce qui est en soi indivisible et autre que les autres. C'est l'acte. Verum et bonum, c'est l'intelligibilité. Toute réalité, en tant qu'elle existe, est intelligible. Toute réalité, en tant qu'elle existe, est bonne. Donc, ces cinq transcendentaux sont convertibles avec l'être. C'est-à-dire, dès qu'il y a l'être, il y a res, propriété, unum, aliquid, verum, bonum. Vous voyez ? Dans mon intelligence, dans la structure de mon intelligence, si je fais un peu de philosophie, donc, même en première année, très vite, vous avez le concept d'être. Dès votre jugement d'existence, ceci est, vous avez le concept d'être. Dans le concept d'être, vous voyez qu'il est déterminé. Tout être, en tant qu'il est déterminé. Tout être, en tant qu'il est un, indivisible. Tout être, en tant qu'il est distinct des autres. Tout être, en tant qu'il est intelligible. Tout être, en tant qu'il est appétible. Désirable, bon. Et donc, l'abstraction formelle m'a permis et me permet d'atteindre, d'avoir ce concept d'être qui est et qui implique les cinq. Alors, vous voyez, il y a une question très intéressante, je ne vais pas entrer dedans. Étant donné que le fondement de notre vie intellectuelle, c'est l'univocité, le genre. Parce que nous avons les deux registres. Nous avons toujours le premier. Ça, nous l'avons tous, le premier. Nous découvrons le deuxième en philosophie. Nous le découvrons. Mais quand on est fatigué, on retombe dans le générique. C'est très amusant de faire l'analyse philosophique et critique d'un article dans le journal. Vous verrez, genre, différents spécifiques, propriétés, très spécifiques. Prenez l'autre point de vue de l'être. Essayez de l'analyser. On parle d'être, de réalité. Très bien. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? on voit que les 300 tout, ceux-là, la plupart du temps, les trouvent. Celui-ci, déjà moins. Et les deux autres, rarement. Alors, vous voyez, c'est intéressant de voir que Albert le Grand considérait que « verum et bonum », ça provenait de la théologie. Théologie chrétienne, de la foi. Que le vrai et le bien n'existaient que dans les choses révélées. Saint Thomas, pas du tout. Il dit que le vrai et le bien se trouvent en philosophie. Oui. Quand le Saint-Père dit qu'il faut une philosophie, que l'Église demande qu'il y ait une philosophie indépendante de la foi, vous prenez bien, si je suis avicénien, comme Albert le Grand, c'est Avicenne, je ne pourrai plus parler en philosophie de vérité et de bonté. C'est ce qui arrive. Ne cherchez pas la vérité, les philosophes ne la cherchent plus. Ne cherchez pas la bonté, ils ne la cherchent plus. Il y a quelque chose de très très profond chez Albert le Grand. Saint Thomas a un regard philosophique beaucoup plus universel. Et c'est ce regard universel qui lui vient d'Aristote. C'est grâce à l'aliquide que Saint Thomas peut intégrer en philosophie verum et bonum. Et la philosophie a toujours cinq doigts. Quand je lis un livre de philosophie, je peux remarquer, y a-t-il les cinq transcendentaux ? Y en a-t-il que deux ? Y en a-t-il trois ? C'est très important, c'est l'aspect critique, ça. Ça, il faut essayer de comprendre. Petit à petit, on le comprend. Dans Thomas d'Aquin, De Veritate, question disputée, question 1, article 1. Normalement, il y a une traduction de ce passage. Si elle n'est pas faite, il faut demander à quelqu'un qui connaît bien le latin de la faire, parce que c'est important de connaître, au point de vue critique, les cinq transcendentaux. Alors, petite remarque, la scolastique commençait la philosophie par les cinq transcendentaux. Donc, on commençait par la critique. Parce que les cinq transcendentaux, oui, si dès le début on les avait donnés, vous auriez cherché en vous votre concept de vrai, votre concept de bien, votre concept d'aliquide, c'est pas commode, en critique. Et on devait les avaler sans savoir d'où ça tombait. On disait ça tombait du ciel. Aristote commence sa philosophie par l'expérience. Alors c'est vrai, on a l'expérience du bien, on a l'expérience du vrai, on a l'expérience de l'aliquide, on a l'expérience de l'un, on a l'expérience du reste. C'est vrai. Mais cette expérience, il faut la répéter souvent pour avoir le concept d'être qui se manifeste par l'essence, qui se manifeste par l'un, qui se manifeste à moi, par à liquide, quelque chose de distinct des autres et indivisible en soi, par le concept du vrai et du bien. Maintenant, nous allons voir comment nous obtenons ces cinq transcendentaux. Ah, ça, c'est pas dit par saint Thomas. Ça a été mon grand souci. Y a-t-il un parallélisme à faire entre les cinq universels univoques et les cinq universaux analogiques? Et y a-t-il une analogie à faire entre le genre, différents spécifiques, espèces, propriétés, accidents et ces cinq? C'est la même intelligence qui dit ça. Et votre esprit, dans la mesure où il est bien fait, a découvert ces cinq gens, ces universaux. Donc vous les avez sûrement, les cinq, j'en suis sûr. Vous savez ce que c'est qu'animal, ce que c'est qu'homme, ce que c'est qu'aspect rationnel, ce que c'est que capable de rire, ce que c'est que les cheveux marrons. L'accident. Une peau blanche, une peau noire, une peau rouge, une peau accidentelle. C'est accidentel. C'est pas une propriété. Ah, capable de rire, c'est une propriété. Parce que c'est pour ça que quand vous êtes devant des singes, de gros singes, surtout ne riez pas. Parce qu'ils sont vexés. Ils ne peuvent pas vous rendre le rire. Alors, comme ils ne peuvent pas vous rendre le rire, ils sont de mauvaise humeur. En Afrique, je fais lycée. J'étais avec quelqu'un d'autre, on a essayé de voir dans quelle mesure le singe, le gros singe, hein, pas le petit singe, celui-là, il s'en fiche pas mal, mais le gros singe, qui veut être un homme, qui veut l'imiter, bien, si en face de lui, vous mettez à rire, il pense que c'est à cause de lui. Et quand il ne peut pas rire, il est furieux. Il devient méchant. Le rire est le propre de l'homme. Mais la définition métaphysique de l'homme, c'est d'être un être autonome qui a une main et qui est capable de rire. La main, vous serrez la main et vous souriez à un ami. Vous montrez que vous êtes capable de rire. Ce n'est pas la parole. On cherche à montrer que des grands singes importants et remontants puissent parler entre eux. Alors par là, on va montrer qu'ils sont comme les hommes. On peut arriver à faire qu'ils aient des cris conventionnels. On peut arriver, ça. Ça ne me gêne pas. Mais la capacité de rire est internationale. Est internationale. Et le singe n'arrivera jamais à sourire. C'était pour la sculpture. La sculpture égyptienne n'a jamais donné le sourire. C'est les Grecs. Vous voyez ça au musée d'Athènes, c'est extrêmement impressionnant. On montre la sculpture égyptienne hiératique. Et puis, dès qu'on entre en Grèce, dès qu'au 5e siècle, la sculpture grecque, le sourire. le grec a montré le sourire. Alors, le sourire, dans quelle catégorie il est? Est-ce que le sourire est une propriété de l'homme? La propriété manifeste toujours l'essence, la substance. La propriété est sensible. Alors, comment acquiert-on les cinq transcendantaux? Par les principes propres de ce qui est. Par les principes propres de ce qui est. Par la substance, principe d'être. Vous acquérez res. La substance est une détermination fondamentale. C'est une détermination fondamentale. Vous ne pouvez pas aller plus loin dans votre détermination. La substance est une. Donc, ça, vous découvrez la propriété. L'être est en acte, à liquide. L'être est vrai. Ah, comment découvrez-vous la vérité? Voyez. En critique, la réflexion sur ma vie intellectuelle aboutit à comprendre que le fondement de la vérité, c'est l'intelligibilité de l'être. Tout ce qui est en tant qu'il est intelligible. Donc, est vrai. Tout ce qui est en tant qu'il est bon. L'éthique. Il faut préciser que c'est grâce à l'induction, l'épagogée, grâce à l'induction, que j'arrive à saisir la substance. Donc, l'abstraction formelle va apparaître grâce à l'induction. Et j'ai les inductions dans les différentes recherches des causalités. Si je recherche la cause déterminante, la cause formelle, j'aurai la substance. Si je recherche la cause finale, j'aurai l'acte. Si je recherche la cause efficiente, il n'y en a pas de premier dans l'ordre de l'être. Parce que le premier dans l'ordre de l'efficience, c'est le Créateur. Seul le Créateur peut produire l'être. Tous les autres, non? Donc, il n'y a pas de premier dans la cause efficiente. Le premier dans la cause efficiente, ce sera le Créateur, ce sera l'être premier. Le premier dans la cause matérielle, n'existe pas. La matière est radicalement relative. Elle est toujours seconde. Donc, son fondement de la cause matérielle ne touche pas l'être. Il y a deux recherches de causalité. pas de premier dans la cause matérielle. On voudrait bien qu'il y en ait. Alors vous avez des idéologies de la matière, la dialectique matérialiste, dans le marxisme. Mais c'est une idéologie. Vous ne découvrez pas un premier dans la matière. Il n'y a pas de premier dans la matière. La matière est foncièrement relative. Elle est pure puissance, donc totalement relative. Je ne peux pas arriver à préciser. Je n'ai pas entendu le cri. Donc je suis bien obligé. J'ai le ventre affamé, n'a pas d'oreille. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu.